Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Ce matin, nous lançons le débat sur le processus de paix au Mali. Pourquoi est-il si compliqué de mettre en œuvre l'accord d'Alger conclu il y a maintenant plus de 3 ans? Qui est responsable du statu quo? Quels obstacles restent-ils à surmonter? En tout cas, pour impulser une nouvelle dynamique, les protagonistes de la crise ont signé, en début de semaine, un pacte pour la paix. Le gouvernement, les Nations Unies, les ex-indépendantistes de la CMA et les groupes armés pro-gouvernement s'engagent à accélérer l'application de cet accord d'Alger. Reste à savoir évidemment si ce document suffira à faire bouger les lignes. On en parle ensemble dans une trentaine de minutes. Vous continuez d'ici là à nous appeler ici à Paris. 33 9 693 693 70. Vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup de Maliens évidemment ont posté des commentaires. Certains sont très sceptiques sur la pertinence de ce pacte pour la paix signé lundi à Bamako. Nous vous donnerons la parole, ce sera donc à partir de 8h40 temps universel, 10h40 heure de Paris. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Senkoun est avec nous, il nous a contacté, il est à Conakry. Bonjour Senkoun.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Des questions sur les camps de détention pour musulmans en Chine.
Effectivement. Près d'un million des Ouïghours sont enfermés par les autorités chinoises dans les centres de rééducation au nord-ouest de la Chine. Alors, j'ai deux questions à ce propos-là. Après avoir longtemps nié, le pouvoir communiste cherche à justifier légalement ces camps de détention. Sur quel principe la Chine justifie-t-elle sa politique d'asile à l'endroit des Ouïghours?
C'est vrai que la Chine a longtemps nié l'existence de ces centres d'internement. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Senkoun.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, depuis quelques jours, les autorités ont changé de discours. Elles reconnaissent effectivement l'existence de ces centres, même si elles préfèrent parler tout de même de centres de formation professionnelle.
Oui, c'est ça, et des centres de lutte quand même contre l'extrémisme religieux. Alors ce n'est pas la première fois, Juan, que les autorités de la province du Xinjiang révisent la loi. Il y a un an déjà, de nouvelles interdictions contre le voile islamique ou contre une barbe jugée anormale. J'avais vu aussi que le fait de suivre ou non les émissions de radio-télévision centrale, la télévision centrale de Chine, était couché sur le papier aussi comme des marques d'extrémisme. Ce qui est étonnant ici, encore une fois, et vous avez raison, Senkoun, c'est que les autorités chinoises ont dû faire une campagne de communication, presque de promotion, j'allais dire, après avoir nié l'existence de ces camps, disant que c'était des inventions occidentales. Il s'agit donc bien de camps de rééducation pour la minorité ouïghour, mais on parle effectivement de centres de formation professionnelle. Il y a deux jours, par exemple, Juan, l'agence Chine Nouvelle a diffusé une longue interview de Shorat Sakir. C'est rare de voir ce genre d'officiel s'exprimer aussi longuement. Shorat Sakir n'étant autre que le président du gouvernement du Xinjiang, cette immense région à l'extrême ouest de la Chine, où vivent donc 14 millions de Ouïghours turcophones et musulmans. Et que dit-il, monsieur Sakir? Eh bien que ces centres de formation professionnelle servent aux stagiaires, il les appelle comme ça, à prendre des cours de mandarin, donc des cours de chinois. Ils apprennent aussi les bases de la loi chinoise, les Ouïghours, et acquièrent des compétences, je cite encore, professionnel. Donc on est plus simplement, Senkoun, dans la lutte contre le séparatisme et l'extrémisme, mais aussi dans le cadre, d'après les autorités chinoises, de la formation professionnelle. Car sans une bonne maîtrise du chinois, dit encore M. Sakir, les Ouïghours ont souvent des difficultés à trouver un emploi en raison, ajoute-t-il, de compétences limitées. Voilà donc, on serait à la fois dans la lutte contre le terrorisme et l'aide sociale, ce qui évidemment fait bondir les ONG et les diplomates qui parlent, eux, de camps de redressement et de détention arbitraire.
Effectivement, on voit bien que les autorités tentent de donner une image positive de ces centres. Vous parliez des ONG, faut quand même préciser, Stéphane, que c'est la publication d'images satellites sur les réseaux sociaux, la publication de documents officiels qui mentionnaient justement l'existence de ces centres qui a un peu forcé la main, contraint les autorités, pour dire clairement les choses, à changer de discours. Senkoun, vous aviez une dernière question.
Oui, Juan. L'ONU et les États-Unis ont dénoncé les persécutions subies par les Ouïghours. Est-ce qu'eux peuvent imposer des sanctions?
Peut-on s'attendre à des sanctions internationales, Stéphane Lagarde, maintenant que, officiellement, Pékin reconnaît l'existence de ces centres de détention?
Elles sont réclamées en tout cas par les élus républicains et démocrates au Congrès américain notamment. Il y a aussi une levée de boucliers notamment dans les chancelleries occidentales. En Europe, par exemple, le commissaire aux droits de l'homme a parlé de répression sans précédent lui aussi. La récente campagne contre le halal au Xinjiang a par exemple entraîné bien des critiques également, par exemple chez les alliés de la Chine comme le Pakistan. Donc il pourrait y avoir peut-être des sanctions. D'où encore une fois cette campagne d'explication, en tout cas de communication autour de ces camps. Je lisais ce matin, par exemple, le compte Twitter de l'éditorialiste du très conservateur Wan Shoshabo, c'est le Global Times ici, c'est un journal très conservateur, et celui-ci il dit carrément qu'il y a plus d'un million de Ouïghours internés au Xinjiang parce que la situation serait très dangereuse, dit cet éditorialiste, qu'il y aurait des actes terroristes contre les Han tous les jours. Alors ça, c'est un discours qu'on n'avait jamais entendu de la part des officiels, on va dire, des médias officiels et des autorités chinoises.
Voilà, un million de membres de la minorité musulmane Ouïghour qui sont ou qui auraient été détenus dans ces camps. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'avoir été avec nous en direct de Pékin. Senkun, on a répondu à vos questions?
Oui, Oran, merci beaucoup.
Et je vous souhaite une belle journée à Conakry, en Guinée.
Merci.
En Guinée, où il est 8h16, 33 9, 693, 693, 70. Bonjour Mohamed. Mohamed. Alors j'entends du bruit, peut-être Mohamed a-t-il pris sa voiture, que fait-il? Êtes-vous avec nous Mohamed? Alors, visiblement, il a peut-être posé le téléphone. Je vais donc me faire son porte-parole. On va peut-être le retrouver, puisque Mohamed a plusieurs questions sur la situation à Anjouan. On vous en parle depuis le début de la semaine. Situation confuse dans cette île de l'archipel comorien, où des civils armés sont retranchés en ce moment même dans la médina, au cœur de la capitale. Et Mohamed voulait comprendre ce que revendiquaient ces civils armés et s'il fallait finalement y voir un lien avec le référendum contesté de juillet dernier, référendum qui s'est tenu aux Comores. Hamziza Chamgama, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, j'espère que Mohamed écoute vos explications. Vous êtes la correspondante de RFI dans l'archipel comorien. Ces derniers jours, de violents affrontements opposent donc les forces de l'ordre à des civils armés. On ne sait pas véritablement qui sont ces civils armés. Ont-ils tout de même des revendications?
Eh bien, les insurgés n'ont pas formulé de revendications à proprement parler. Il y a clairement un lien avec le référendum dont vous parlez, puisque l'exécutif de l'île a expliqué dans un communiqué officiel qu'une journée morte était prévue à l'origine lundi dernier pour protester contre les réformes institutionnelles du président Azali, donc la disparition de la Cour constitutionnelle, le passage en force lors du référendum donc du 30 juillet dernier, un référendum qui lui permet de prolonger son mandat. Le gouverneur de l'île d'Anjouan parle de dérive dictatoriale, ce qui devait être cependant pour lui une déclaration pacifique à tourner à l'affrontement armé, à sa grande surprise. Donc d'un côté, l'exécutif de l'île dit être à la base du mouvement, et de l'autre, il condamne fermement les échanges de tirs et déplore la mise en danger de la population, ainsi que les pertes civiles qui en résultent. Il exhorte d'ailleurs les insurgés à se rendre dans le calme.
Oui, alors vous parliez des victimes. Le bilan officiel est pour l'instant de 3 morts, tous des civils. Réaction internationale. Hier, l'Union africaine a appelé au calme et au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa préoccupation. Il appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue dans l'intérêt de la paix, de la stabilité aux Comores. Mohamed, nous l'avons retrouvé. Il est avec nous. Vous êtes là, Mohamed?
Oui,
voilà.
Je suis avec vous, bien sûr.
Très bien, on est ravis de vous entendre. Vous aviez une autre question?
Oui, ma deuxième question est que, que compte faire le gouvernement face à cette insurrection et quelles solutions peuvent être envisagées?
Alors, Hamziza Mchangama, comment réagissent les autorités, le gouvernement?
La priorité du gouvernement est évidemment de rétablir l'ordre sur l'île. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que le problème serait réglé dans les heures à venir. Bon, les insurgés sont retranchés dans la médina au cœur de Moutsamoudou, vous le disiez, Juan, la capitale de l'île, donc, et les autorités envisagent de les contraindre à se rendre, car ils n'ont de toute façon aucune issue. Le problème, c'est que des familles vivent également dans cette médina et risquent d'être victimes en cas d'échange de tirs. Donc la situation est très compliquée à gérer pour le gouvernement.
Donc ce serait, un désarmement par la force. Est-ce qu'on peut envisager tout de même une solution politique à cette crise?
Quoi qu'il en soit, aucune solution politique n'est envisageable puisqu'il n'est pas question de négociation entre ces insurgés armés et le gouvernement qui les a d'ores et déjà qualifiés de terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes. Pourtant, le désarmement de ce quartier pourrait être bien plus long que le délai annoncé, en tout cas par le ministère de l'Intérieur.
Ouais.
Pour l'instant, c'est plutôt l'impasse.
C'est l'impasse, et le ministre de l'Intérieur qui espère une issue positive à cette crise dans les prochaines heures. On suivra l'évolution de la situation avec vous, évidemment, en disant Changama. Et vous qui nous écoutez aux Comores, si vous souhaitez témoigner, et d'autant plus si vous êtes à Anjouan, et notamment dans la capitale, vous êtes les bienvenus. RFI vous donnera la parole demain, vendredi, dans la Libre Antenne, 33 9 693 693 70. On va passer maintenant à un tout autre sujet qui a suscité plusieurs questions au Standard et sur la page Facebook de l'émission. Des questions sur l'Église orthodoxe après la rupture entre Moscou et Constantinople. C'est un dossier, disons-le, un peu compliqué pour les non-initiés. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI, nous vous écoutons.
Merci Juan. En début de cette semaine, l'Église russe a annoncé rompre ses liens avec le patriarcat de Constantinople. J'aimerais savoir que représente ce patriarcat de Constantinople pour le monde orthodoxe. Ma deuxième question, pourquoi l'Église russe s'oppose-t-elle à l'indépendance d'une Église orthodoxe ukrainienne ?
Oui, cette crise est née, cette rupture est intervenue après la décision du patriarcat de Constantinople de reconnaître effectivement une Église orthodoxe indépendante en Ukraine. Pour comprendre cette rupture historique, avec nous un spécialiste de la religion orthodoxe. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Que représente déjà le patriarcat de Constantinople dans l'Église orthodoxe ?
Le patriarcat de Constantinople dans l'Église orthodoxe, en fait, porte la primauté de 250 millions d'orthodoxes à travers le monde. Le patriarcat de Constantinople est considéré comme l'église mère des églises slaves. C'est le patriarcat de Constantinople qui a fait l'évangélisation des slaves, qui a donné naissance à ces églises. Et le patriarcat de Constantinople est primus inter pares, c'est la formule, il est le premier entre ses pairs. C'est à lui qu'il revient en fait la présidence, on dit dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Il incarne un pouvoir de recours, et le patriarcat de Constantinople considère que c'est à lui d'accorder l'autocéphalie, c'est-à-dire d'accorder l'indépendance à de nouvelles églises.
Donc, le patriarcat de Constantinople est la plus haute autorité morale du monde orthodoxe. Il existe 13 églises orthodoxes, dont celle de Russie. Quelles étaient jusqu'à présent les relations entre l'église russe et le patriarcat de Constantinople ?
Ces relations depuis le XVIIIe siècle sont très compliquées parce que l'Église russe, en fait, porte très souvent la diplomatie de l'État russe, qu'il s'agisse d'une diplomatie qui est de type tsariste, communiste, ou aujourd'hui sous Vladimir Poutine. Donc l'Église russe considère, elle, qu'elle représente la moitié du monde orthodoxe en termes de ressources, de nombre de fidèles, de prêtres, mais aussi de ressources financières et de ressources politiques. Donc il y a là une sorte de conflit, puisque le pouvoir d'initiative revient traditionnellement, symboliquement à Constantinople, mais que le patriarcat de Moscou a pris l'habitude ces deux derniers siècles, en quelque sorte, de vouloir bousculer cet ordre en imposant, parfois de manière un peu brutale, je dirais, sa supériorité matérielle.
Oui, matérielle, effectivement. Alors, il y a eu cette ligne rouge franchie donc par le patriarcat de Constantinople, la reconnaissance donc d'une église orthodoxe indépendante en Ukraine. En quoi cette reconnaissance a choqué l'église de Moscou, l'église de Russie ?
Le patriarcat de Constantinople a accordé sa indépendance car il considère que c'est lui qui a procédé au baptême de Kiev. Kiev, la capitale de l'Ukraine. Mais pour les Russes, évidemment, Kiev est le berceau de leur propre foi. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé ? Constantinople a considéré que la position des orthodoxes d'Ukraine était devenue intenable car ils étaient pris dans un conflit interétatique, c'est-à-dire entre la Russie et l'Ukraine elle-même. Or, le patriarcat de Moscou est la seule institution post-soviétique à couvrir l'entier territoire de l'ancienne Union soviétique. Le patriarcat de Moscou régente les orthodoxes, non seulement d'Ukraine, mais de Biélorussie, du Kazakhstan, des Pays-Baltes, ou encore des républiques asiatiques centrales. Donc, il y a là un véritable, je dirais, nœud. Moscou considère que il n'y a pas de problème pour les orthodoxes d'Ukraine d'être en dessous, sous Moscou, alors que Constantinople considère que la situation est arrivée à un point critique et que les orthodoxes d'Ukraine, en raison de leur lien avec Moscou, sont pris dans un lien d'allégeance qui n'est pas que religieux ou spirituel.
Oui. Il y a effectivement en toile de fond le conflit en Ukraine, l'annexion de la Crimée depuis maintenant 4 ans, et donc effectivement ces tensions politiques se répercutent, si j'entends bien, et si peut-être que j'aurais caricature, et vous pouvez me reprendre évidemment, je suis loin d'être expert en la question, mais cette crise politique se répercute aujourd'hui dans les tensions entre au sein de l'Église orthodoxe.
Absolument. Oui. Le conflit, il est ecclésiologique, au sens, c'est-à-dire il porte sur la nature de l'Église, qui fait quoi dans l'Église, comment l'Église orthodoxe vit son unité, l'organise, mais c'est évident que ce conflit d'ordre plutôt spirituel et théologique est visité par un conflit géopolitique, et que le département d'État américain à Washington et le ministère des Affaires étrangères au Kremlin à Moscou, évidemment, ont tendance à vouloir influer sur le cours des événements.
Alors, justement,
de même qu'Erdogan.
Alors justement, Jean-François Colosimo, Emmanuel nous a contacté de Côte d'Ivoire. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Anne.
On vous écoute.
Ok, bon, j'aimerais savoir, est-ce que dans cette décision de rupture, on peut voir la pression du Kremlin ?
La main de Vladimir Poutine, selon vous, Jean-François Colosimo ?
Du tout, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que Vladimir Poutine veut à tout prix garder l'Ukraine, et il est évident que le patriarcat de Moscou est pour lui un moyen d'influence, à tout le moins de relier les orthodoxes d'Ukraine à Moscou, c'est-à-dire dans son esprit au Kremlin. À l'inverse, le département d'État américain, qui voudrait voir l'Ukraine basculer du côté occidental, est très intéressé par le fait qu'il y ait une église d'Ukraine indépendante, souveraine, séparé de Moscou.
Ouais. Je vous entends parler religion et en même temps politique. Là aussi, peut-être que je caricature un peu, mais est-ce que dans le monde orthodoxe, on peut dire que les liens entre la religion et le politique sont quand même très très étroits, très imbriqués ?
Il y a deux problèmes. D'abord, c'est qu'effectivement, au XIXe siècle, la sécularisation, la manière dont la modernité a affecté l'Église orthodoxe, c'est le nationalisme, puisque beaucoup de peuples, tels que les Serbes, les Bulgares, les Grecs et autres, se sont affranchis de l'Empire ottoman, et chaque fois qu'ils ont créé un État, ils ont créé une Église qui a morcelé le corps orthodoxe en une multitude d'églises nationales. Mais d'un autre côté, religion et politique, c'est une façon très française de voir les choses que de les opposer.
Ouais. Excusez-moi, il me reste une minute, je voudrais qu'Emmanuel pose sa dernière question qui me semble également intéressante. Emmanuel ?
Oui, j'aimerais savoir, quel impact cette décision peut-elle avoir dans le monde orthodoxe ?
Surtout qu'il y a 300 millions de fidèles, ils vont devoir choisir un des deux camps ou pas, selon vous,
Absolument. Jean-Claude Colosimo. En tout cas, Moscou s'attend à ce que beaucoup d'églises rejoignent le patriarcat de Moscou dans une opposition à Constantinople pour dénoncer la même église de Constantinople. Constantinople, de son côté, attend que ces mêmes églises prennent parti pour sa décision, d'une église de liberté et justement peut-être un peu moins liée aux politiques. Ce qui est à redouter, c'est que les passions sont telles en Ukraine, on le voit bien malheureusement dans l'Est, qu'il y a un combat pour des lieux saints, comme par exemple la laure de Kiev, les grottes de Kiev, qui est en droit monastique la fondation du baptême de la Russe médiévale, de tous les Slaves au Moyen-Âge, et que ça entraîne spontané ou manipulé
des troubles,
des émeutes ou des meurs.
Oui, effectivement. C'est d'ailleurs ce que craint le patriarcat de Moscou, qui a brandi la menace de troubles en Ukraine entre les partisans de désormais ces églises rivales. Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'avoir été avec nous, spécialiste de la religion orthodoxe. Reste à l'écoute de RFI, tout de suite le journal, et on revient dans 10 minutes pour débattre du processus de paix au Mali.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.